à la prochaine.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour le monde aujourd'hui, bienvenue dans cette édition du mardi 5 décembre 2023 avec vous Eric Manilakidza. D'abord les titres. L'ancien président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz est condamné à 5 ans de prison pour blanchiment d'argent et enrichissement illicite avec confiscation de ses biens. Le Niger met fin à deux missions de sécurité de l'Union européenne pendant une visite russe à Niamey dirigée par le vice-ministre de la Défense pour des discussions avec les autorités militaires. Tragédie au Nigeria, un village touché par erreur par un drone militaire pendant les festivités du Maulud, faisant des morts et des blessés parmi les civils. Félix Tshisekedi en lice pour un second mandat, les enjeux de sa campagne présidentielle en RDC.
Le peuple d'abord. Et justement, c'est pour le peuple d'abord que Félix Tshisekedi s'est vraiment investi durant son premier mandat, les 5 premières années. Donc.
Décès de Yacouba Sawadogo, pionnier de la lutte contre la désertification au Burkina Faso. Il y laisse un héritage remarquable dans la transformation des terres arides en forêts fertiles. Des plateformes multifonctionnelles transformer la vie des communautés rurales au Togo, offrant de meilleures conditions de vie et un accès élargi aux services essentiels.
C'est la première fois que nous avons de la lumière, de l'eau potable et des installations propres pour moudre le maïs ou le manioc. C'est une grande avancée pour le village de Afito.
68 morts dans des glissements de terrain au nord de la Tanzanie suite à des pluies torrentielles. Le Kenya adopte un système d'information sanitaire numérique boostant l'accès aux soins médicaux dans les régions rurales. Le ministre saoudien de l'énergie s'oppose catégoriquement à un accord sur la sortie des énergies fossiles lors de la COP28, marquant des négociations tendues à Dubaï. L'armée israélienne resserre les taux sur le sud de Gaza. Inquiétude pour les civils. Dans 10 minutes, vous suivrez l'économie et les sports, mais d'abord le journal. Mohamed Ould Abdelaziz, l'ex-président mauritanien, a été condamné à une peine de 5 ans de prison pour blanchiment d'argent et enrichissement illicite. En plus de cette peine, il doit s'acquitter d'une amende d'environ 1,2 million de dollars et a été privé de ses droits civils. Tous les biens acquis illégalement par l'ancien président sont également confisqués. Pour plus de détails, nous retrouvons Mohamed Diop, notre correspondant à Nouakchott.
La Cour spécialisée dans la lutte contre la corruption a retenu 5 ans de prison ferme pour blanchiment d'argent et enrichissement illicite contre Mohamed Ould Abdelaziz. Et l'ex-président doit verser une amende d'environ 1,2 million de dollars. La Cour a également ordonné la saisie de tous ses biens provenant de blanchiment d'argent ou d'enrichissement illicite. L'ex-chef de l'État perd également ses droits civils. En revanche, Mohamed Ould Abdelaziz a été acquitté de toutes les autres charges, dont entrave à la justice et abus de fonction. Ce qui n'empêche pas la déception de ses avocats, qui espéraient que la Cour déclare son incompétence, car ils soutiennent que seule la haute Cour de justice était habilitée à juger leurs clients. Quant aux autres prévenus, ils écopent des peines de 6 mois à 2 ans et demi, parfois même avec sursis. 4 parmi eux d'ailleurs, des anciens ministres de Ould Abdelaziz, ont été tout simplement acquittés. Mohamed Diop pour VOA Afrique, Nouakchott.
Le régime militaire au Niger a annoncé la fin de deux missions de sécurité de l'Union européenne dans le pays, rompant ainsi les liens avec les partenaires occidentaux depuis le coup d'État de juillet, tout en accueillant une délégation russe. Ces ruptures incluent la dénonciation de l'accord avec l'Union européenne concernant la mission civile ECAP Sahel-Niger et le retrait du consentement pour la mission militaire lancée à la demande des autorités nigériennes pour lutter contre les groupes armés. Parallèlement, une délégation russe dirigée par le vice-ministre de la Défense est arrivée à Niamey hier pour signer des accords pour renforcer la coopération militaire, marquant ainsi un rapprochement diplomatique entre le Niger, le Burkina Faso et le Mali, tous dirigés par des régimes militaires suite à des coups d'État. Cette évolution s'ajoute au départ du Niger et du Burkina Faso de l'organisation anti-djihadiste G5 Sahel, en place depuis le 29 novembre, marquant un recentrage des alliances dans la région du Sahel. Un village dans le nord-ouest du Nigeria a été touché par un drone de l'armée lors des célébrations du Maulud, une fête musulmane causant des morts et des blessés parmi les civils. Mohamedou Oumfa.
Des fidèles musulmans qui célébraient le Maulud ont été tués par erreur et de nombreuses autres personnes ont été blessées à la suite d'une attaque de drones militaires visant des terroristes et des bandits, a déclaré Ouba Sani, gouverneur de l'état de Kaduna. Des dizaines de blessés ont été transportés dans un hôpital universitaire de Kaduna, a indiqué Samuel Arouane, commissaire local à la sécurité de l'État, à l'issue d'une réunion à huis clos avec des responsables de l'armée et des chefs de communauté. Il a déclaré que l'attaque avait fait plusieurs morts et blessés, mais n'a pas fourni de bilan. L'armée n'a pas donné non plus de bilan précis, mais un villageois a déclaré que 30 personnes ont été tuées dimanche, la plupart des femmes et des enfants. Les forces armées nigérianes ont souvent recours à des frappes aériennes dans leur lutte contre les milices dites bandits dans le nord-ouest et le nord-est du pays, où les djihadistes mènent une insurrection. Plus de 40 000 personnes ont été tuées et 2 millions ont été déplacées depuis 2009.
Les pluies torrentielles dans le nord de la Tanzanie ont déclenché des glissements de terrain, provoquant la mort d'au moins 68 personnes, d'après un dernier bilan des autorités. Rosine Munezer.
Ces pluies tombent depuis samedi sur la ville de Katesh, dans le nord de la Tanzanie, à environ 300 km au nord de la capitale Dodoma. Des dizaines de véhicules et des maisons ont été emportés par les coulées de boue. Nous avons déjà compté 68 morts, a indiqué Queen Sendiga, une responsable régionale. Un précédent bilan faisait état de 63 morts. Nous pensons qu'il y a davantage de corps à récupérer, avait dit auparavant le Premier ministre Kassim Majaliwa en visite à Katesh. Les recherches et opérations de secours sont toujours en cours avec l'aide de l'armée pour retrouver des personnes qui pourraient être ensevelies par la boue. Des images diffusées par les chaînes de télévision locales montrent des rues jonchées de débris de maisons alors que la circulation et la distribution d'électricité sont perturbées. L'Afrique de l'Est est touchée depuis des semaines par des pluies torrentielles et des inondations qui ont déplacé plus d'un million de personnes en Somalie et fait plus de 300 morts dans la région.
Les États-Unis ont annoncé lundi qu'ils refuseront d'accorder des visas aux responsables ougandais qui appliqueraient une loi anti-homosexualité controversée promulguée en mai et qui comprend des sanctions allant jusqu'à la peine de mort. Parallèlement, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a également annoncé que les États-Unis refuseront de délivrer des visas à toute personne ayant compromis le processus électoral au Zimbabwe en août dernier. L'Afrique du Sud marquait ce mardi les 10 ans de la mort de Nelson Mandela. Entre nostalgie de son intégrité et déception de ce qui a suivi, le président sud-africain Cyril Ramaphosa ne prévoit pas de s'exprimer. Mais en fin de journée, la pakistanaise Malala, prix Nobel 2014 pour son combat pour l'éducation, a été choisie pour prononcer le discours anniversaire dans un grand théâtre de Johannesburg.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le ministre saoudien de l'énergie a clairement exprimé son opposition à un accord visant à abandonner les énergies fossiles lors de la COP 28, soulignant ainsi les tensions et les défis des pourparlers en cours à Dubaï. Cette position marquait le début de négociations ardues au sein de la conférence. Davantage avec Alexandrine Rollignon.
Sortie ou réduction du pétrole, gaz et charbon sont au cœur d'âpres discussions à la COP 28. Et les deux options figurent dans la première ébauche du texte dont doit accoucher la conférence de Dubaï. Le prince Abdelaziz Ben Salman a affirmé que son pays, premier exportateur de pétrole au monde, n'est absolument pas d'accord dans une interview accordée à l'agence Bloomberg à Riyad. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a insisté la semaine dernière sur le fait que la limite de 1,5 degrés Celsius est tenable uniquement si nous finissons par arrêter de brûler tous les combustibles fossiles. Le prince Abdelaziz a déclaré « Je voudrais lancer un défi à tous ceux qui disent publiquement que nous devons sortir des énergies fossiles. Je vous donnerai leur nom et leur numéro, appelez-les et demandez-leur comment ils comptent y prendre. » Selon lui, aucun gouvernement n'y croit. La Chine et la Russie aussi sont opposées à toute mention des énergies fossiles.
Après des semaines de combats contre le Hamas dans le nord de Gaza, l'armée israélienne intensifie ce mardi son déploiement dans le sud du territoire, faisant craindre un scénario encore plus infernal pour les civils. L'armée israélienne a toutefois demandé aux organisations humanitaires internationales de leur soutien pour aider à la mise en place des infrastructures à Al-Mawasi, zone côtière du sud de la bande de Gaza près de Rafah, où Israël demande aux civils de se replier. La présidente du CICR, arrivée lundi dans la bande de Gaza, a dénoncé les souffrances intolérables de la population. Un ancien ambassadeur américain a été inculpé à Miami pour avoir espionné pendant plus de 40 ans les États-Unis au profit de Cuba, ennemi historique de Washington. Victor Manuel Rocha, 73 ans, a été arrêté vendredi, accusé d'avoir été une taupe pour le gouvernement communiste de la Havane. Cette affaire est l'une des infiltrations parmi les plus longues et touchant à des niveaux les plus importants d'un agent étranger au sein de l'État américain, a dit le ministre de la Justice, Merrick Garland. À présent, la minute écho avec Abdourahmane Dia.
L'autorité portuaire du Nigeria a annoncé un investissement de 1,1 milliard de dollars pour réhabiliter les ports du pays d'ici le premier trimestre de 2024. Selon Mohamed Bello Koko, directeur de la Nigerian Ports Authority, l'objectif est d'améliorer l'infrastructure physique de ces ports pour accueillir des navires de toute taille et augmenter le tirant d'eau des quais visant à atteindre des profondeurs d'eau allant jusqu'à 14 mètres. La Banque mondiale avait pointé dans un rapport la congestion dans un des ports les plus importants du pays, celui d'Apapa. Le gouvernement kényan annonce la signature de 7 accords avec des sociétés privées et des gouvernements sur des projets verts dans les domaines des énergies renouvelables, de la production d'engrais, du cloud computing et de l'agriculture durable. C'est en marge de la 28e conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, COP28, qui se tient à Dubaï. Le Kenya produit déjà 92% de son électricité à partir des énergies renouvelables, notamment la géothermie, l'hydroélectricité et l'énergie éolienne. Enfin, Spotify va licencier environ 1 500 salariés, soit 17% de ses effectifs. Le géant du streaming musical a déclaré lundi qu'il souhaitait réduire ses coûts. Il s'agit de la troisième vague de licenciements dans l'entreprise cette année. Spotify a investi plus $1 milliard pour développer son activité de podcast. Il compte actuellement plus de 600 millions d'utilisateurs contre 345 millions fin 2020.
Et sans transition, nous passons à votre page des sports, Yacouba Ouédraogo, avec nous. Bonjour Yacouba.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Du football féminin pour commencer avec le dernier tour des éliminatoires de la CAN Maroc 2024.
Oui, il reste 9 billets à distribuer et la journée d'aujourd'hui est déterminante. Après sa défaite à l'aller à Dar es Salaam 3-0, le Togo espère un miracle à Lomé. Le Sénégal y est presque, compte tenu de sa victoire au match aller 4-0 contre l'Égypte. Situation similaire pour le Nigeria qui avait battu 5-0 à l'aller le Cap-Vert. Le Mali a aussi un pied au Maroc, lui qui a dominé la Guinée 7-2 au match aller. Les Zambiennes pourraient aussi valider leur billet grâce à leur victoire 6-0 contre les Angolaises à la match aller. À suivre aussi République démocratique du Congo, Guinée équatoriale et Botswana, Kenya. Hier, la tenante du titre, l'Afrique du Sud, s'est qualifiée en battant 2-0 le Burkina Faso. Après le match nul, un but partout à l'aller. L'Algérie aussi a validé son ticket en battant le Burundi 1-0, 5-1 à l'aller pour les Algériennes.
Du handball avec le mondial féminin en cours, Yacouba.
Battu d'entrée 26-18 par l'un des pays hôtes, la Suède, le Sénégal joue aujourd'hui sa place en phase finale lors de la troisième journée contre la Chine. Hier, l'Afrique a enregistré sa première victoire grâce au Cameroun qui a battu le Paraguay 26-23. Le Congo est tombé 26-31 face à l'Argentine, 26 partout entre l'Angola et l'Islande.
Athlétisme avant de nous quitter, deux Kenyans parmi les présélectionnés pour les Jeux de Paris 2024.
Eliud Kipchoge, double champion olympique de marathon, et Kelvin Kiptum, détenteur du record du monde, font partie de la présélection du Kenya pour les Jeux olympiques de Paris. La championne olympique en titre Peres Cheptegei et l'ancienne détentrice du record du monde Brigitte Kosgei font aussi partie de l'équipe dévoilée par la Fédération kényane d'athlétisme. Kipchoge a remporté deux fois le titre olympique chez les hommes à Rio de Janeiro en 2016, puis à Tokyo en 2021 et deviendra le premier athlète à réaliser un triplé inédit s'il gagne l'été prochain à Paris. Son rival Kiptum est vainqueur du marathon de Londres et de Chicago. Le directeur des compétitions de la Fédération kényane, Paul Mutui, a précisé que ces deux listes de 10 athlètes sont provisoires et qu'elles seraient réduites en janvier à 5 coureurs et 5 coureuses.
C'était les sports avec Yakuba ou Edraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Manirakidza de retour avec vous pour les dossiers du jour. Les candidats à la présidentielle en RDC poursuivent leur campagne, y compris le président sortant Félix Tshisekedi en quête d'un second mandat. Eddie Isango s'est entretenu avec le porte-parole de sa campagne, Eric Nindou, pour en savoir plus sur les perspectives de Tshisekedi.
Félix Tshisekedi, c'est quelqu'un qui a été formé justement dans sa propre famille au combat politique, au combat pour la liberté, au combat pour la démocratie. Une fois élu, ça a été un président qui a voulu appliquer justement les principes qu'il avait appris, c'est-à-dire ceux de faire de la RDC un véritable état de droit et de pouvoir mettre en œuvre la doctrine de l'UDPS, qui était justement ce parti de Étienne Tshisekedi, l'Union pour la démocratie et le progrès social, dont le slogan principal c'est tout pour le peuple. Et voilà, justement, le peuple d'abord. Et justement, c'est pour le peuple d'abord que Félix Tshisekedi s'est vraiment investi durant son premier mandat, les 5 premières années, donc de 2019 à 2023. Il s'est battu justement pour le peuple congolais. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il se représente devant les Congolais et les Congolaises pour leur demander leur confiance et pouvoir faire un second mandat à partir justement d'un bilan, positif, avec par exemple des mesures phares telles que la gratuité, la mise en œuvre de la gratuité de l'école primaire qui a permis à 5 millions d'enfants de venir, d'accéder à l'école, la mise en œuvre de la couverture santé universelle qui a permis justement de lancer dans 8 provinces du Congo et de bientôt du pays la gratuité des soins pour les mamans et les bébés et aussi la gratuité des accouchements et qui a permis aussi au Congo de revenir sur le devant de la scène, par exemple, en organisant les Jeux de la francophonie. Et à part ça, il y a tout un vaste programme d'infrastructures qui a été mis en œuvre. Bref, le président Tshisekedi est celui qui a remis le Congo sur les rails du développement et qui a redonné la dignité aux Congolais. Et si les Congolais lui font confiance et lui renouvellent pour un second mandat, eh bien, il pourra amener le Congo plus loin et faire de notre pays un véritable pays émergent.
Là, vous avez déjà étalé quelques points de son programme, de ses réalisations, mais on les reconnaît comme celui qui a fait beaucoup de promesses pour les Congo, notamment de faire de la RDC, l'Allemagne du Congo. Qu'en est-il exactement?
Ah ben justement, c'est ça. Ça, c'est une vision. Ce n'est pas une promesse, c'est une vision. C'est-à-dire, le Congo doit devenir comme l'Allemagne, c'est-à-dire un grand pays industriel. Pourquoi? Parce que le Congo en a le potentiel. Et malheureusement, depuis 60 ans, depuis le début de notre indépendance, on parle toujours du potentiel du Congo. Le Congo a à la fois une richesse minière. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi veut nous permettre, c'est-à-dire tous les Congolais, si nous sommes unis, nous pouvons accéder à l'indépendance économique, c'est-à-dire la maîtrise de nos richesses et la réappropriation de notre patrimoine. C'est ça le combat. C'est ça l'enjeu de l'élection.
Qu'est-ce qu'il compte faire qu'il n'a pas pu réaliser pendant les 5 autres, si jamais il était élu?
C'est pas des nouvelles choses qu'il va réaliser. Il va, pendant les 5 prochaines années, s'il est réélu, il va pouvoir d'abord consolider ce qu'il a déjà commencé à faire.
Eric Nindou, porte-parole de la campagne du président sortant Félix Tshisekedi, joint à Bruxelles.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Lubumbashi, c'est sur 102.8 FM en République démocratique du Congo.
Le célèbre agriculteur burkinabé Yakuba Sawadogo, renommé pour sa technique Zaï contre la désertification, est décédé dimanche. Il a consacré sa vie à transformer des terres arides en forêts en utilisant des fosses pour retenir l'eau et les nutriments.
L'agriculteur burkinabé laisse un héritage remarquable, honoré par des distinctions telles que le prix Nobel alternatif et le titre de champion des Nations Unies. Au téléphone avec Arzuma Compaoré, son fils Lukman Sawadogo évoque l'impact de son père sur son héritage.
Il a commencé avec la technique du design, ensuite l'instrument, le thème, et après sa pousse, devient des arbitres, ensuite des arbres. Mais avant qu'il ne démarre, il a dit qu'il lui va venir avec sa chose. Premièrement, lui qui va enlever les sortes. Deuxièmement, vaincre contre la famille. Troisièmement, lui va ramener toutes les espèces locales qui sont en voie de disparition. Parce que c'était les arbres que les gens utilisaient pour se soigner. Donc, les forêts sont disparues. Donc, lui, il va ramener toutes ces espèces. Et 40 ans après, si lui, il ne meurt pas, il va utiliser les mêmes arbres qu'il a eu à mettre en place pour soigner les gens. Il pouvait soigner plus de 10 à 20 personnes par jour à travers les plantes. Et je vous dis qu'aujourd'hui, la forêt est devenue un poumon vert de la région de Wayubia.
Aujourd'hui, c'est devenu un symbole dans la lutte contre l'avancée du désert. Vous avez pris la relève, vous faites maintenant des formations. Quelle est la plus grande qualité que vous pouvez partager sur votre père?
En tout cas, mon père, il a beaucoup fait. Il a eu beaucoup de décorations au niveau national. Il est vraiment honoré dans le pays. On est honoré aussi au niveau international. Et sans savoir aussi, il a partagé avec beaucoup de personnes. Donc, il nous a transmis sans savoir, nous, les enfants aussi, on a commencé à transmettre sans savoir. Je prends par exemple le mois passé, j'ai formé près de 50 paysans sur les créations des forêts sahéliennes. On a perdu un grand homme. Et voilà. Donc, c'est pour nous seulement, les amis au niveau national comme au niveau international, c'est clair comme nous, parce qu'on a perdu un grand homme.
Lukmane Sawadogo, fils du célèbre agriculteur Yakuba Sawadogo, décédé dimanche.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou sur le 102.4 FM.
Des communautés rurales au Togo bénéficient d'équipements essentiels pour améliorer leurs conditions de vie, notamment des plateformes multifonctionnelles visant à augmenter les revenus et l'accès aux services sociaux de base grâce à une meilleure accessibilité aux services énergétiques. À Affito, l'implantation de ces équipements a considérablement transformé la vie des résidents, rapporté notre correspondant Kossi Wosu depuis Lomé.
À plus de 100 km au sud-est de la capitale du Togo, le petit village d'Affito vient de disposer d'une mini centrale solaire et d'une plateforme multifonctionnelle. Pour Kofi, le chef du village, c'est un heureux bouleversement pour toute sa communauté.
Ce village existe depuis plus de 100 ans. C'est la première fois que nous avons de la lumière, de l'eau potable et des installations propres pour moudre le maïs ou le manioc. C'est une grande avancée pour le village de Affito.
Lolo Amavi, qui a assuré la coordination des travaux d'installation, fait la visite guidée à partir de la centrale solaire installée à l'entrée du village.
C'est les panneaux solaires que vous avez là-bas qui alimentent le moulin et qui alimentent aussi une machine qui essaie de transformer le manioc pour que les femmes puissent faire du gari. La salle qui est là-bas, c'est le magasin. Nous avons stocké des fours qui doivent servir à frire le poisson. Nous avons un magasin où nous allons mettre un congélateur solaire quand les pêcheurs descendent de la pêche, doivent stocker le poisson frais pour pouvoir convoyer ça en ville ou vendre ailleurs.
Dans le village d'Afrique, Fito, les femmes sont aux manettes et se réjouissent de l'installation de cette plateforme.
C'est un grand soulagement pour nous les femmes. Pour moudre le maïs ou le manioc, nous parcourions plus de 6 km, même en temps de pluie. Pour avoir de l'eau, il faut la chercher dans un puits de plus de 30 mètres de profondeur. Aujourd'hui, ces souffrances sont terminées. La plateforme multifonctionnelle et le forage sont juste à côté. C'est une délivrance pour nous les femmes de ce village.
Anani, jeune homme d'une trentaine d'années, entrevoit une vie meilleure dans le village, surtout avec l'arrivée de l'électricité.
En tant que jeunes de ce village, nous sommes ravis de ce développement. Nous pouvons charger aisément nos portables et installer des postes de télévision, suivre des informations du monde. C'est très important pour nous.
Pour la pérennité de ces installations, les hommes et femmes du village d'Afito ont été formés pour en prendre soin. Commandant Gazi, ingénieur senior.
Donc pour la formation, elle a duré 15 jours et ça a pris en compte 15 femmes du village et 5 hommes. Donc à l'issue de la formation, les populations ont des notions à l'exploitation et la maintenance de la plateforme multifonctionnelle parce que c'est la population qui va exploiter la plateforme.
Dans le pays, à moins de 10 ans, les autorités ont mis en place une centaine de plateformes multifonctionnelles qui ont considérablement amélioré la vie de plus de 700 000 femmes. Kossi Wousou, Lomé pour VOA Afrique.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum cette semaine. Nous faisons le point sur la campagne en vue des élections générales du 20 décembre en République démocratique du Congo. Les candidats, surtout ceux à la présidentielle, continuent de sillonner le pays alors que des incidents meurtriers ont été signalés. Les affrontements dans l'Est troublés se poursuivent également au moment où les forces de maintien de la paix se retirent. Quels sont les enjeux de ce grand rendez-vous électoral ? Washington Forum, ce jeudi, à 19h10.
Dans l'ouest du Kenya, l'adoption d'un système d'information sanitaire numérique par le ministère de la Santé a entraîné une hausse des consultations médicales dans les hôpitaux du village, soulignant l'impact positif de cette innovation. Mohamed Youssouf explore les changements observés depuis le déploiement de ce système. Le récit avec Thierry Kaoré.
Mildred Owegi fait partie des 3000 promoteurs de santé communautaire du comté de Kisumu dans l'ouest du Kenya. Au service de la population depuis 30 ans, elle utilise depuis peu un système numérique d'information sur la santé dans le cadre de son travail. Une application pour téléphone lui permet de diagnostiquer les maladies avant d'administrer des médicaments et de déterminer le moment opportun pour conseiller aux patients de se rendre dans un centre de santé.
Normalement, nous utilisons ces documents, mais le téléphone est une bonne chose. Le téléphone vous indique ce qu'il faut faire. Alors vous pouvez faire ce que le téléphone vous dit pour que vous soyez correct.
Des patients comme Liliane Okello, mère des jumeaux, ont adopté le nouveau système.
J'aime la façon numérique de prendre les données de santé des enfants parce que quand ils viennent, je les vois toujours lire ce qu'il y a sur le téléphone et faire exactement ce qu'ils sont censés faire par rapport à la méthode manuelle.
Le Kenya a lancé le système d'information sanitaire numérique le mois dernier en fournissant des téléphones intelligents à 100 000 agents de santé dans l'ouest du pays dans le but d'améliorer la qualité des soins de santé. Les experts en santé affirment que ce système pourrait rapprocher le Kenya de la couverture sanitaire universelle en garantissant l'accès aux services de santé à tout moment et en tout lieu. Au cours des dernières semaines, dans cet hôpital du comté de Kisumu, le nombre de patients en quête de services médicaux est passé de 700 à 1800. Richard Adede est responsable clinique à l'hôpital de Nyangande.
Le nombre de patients a beaucoup augmenté. Il y a des gens qui ont beaucoup progressé en termes de numérisation des clients atteints du VIH et de la tuberculose parce que nous pouvons les détecter très tôt. Nous les appelons un jour avant et ils viennent.
Le gouvernement local affirme que le déploiement de systèmes électroniques lui permet de planifier les besoins en soins de santé de la population. John Seda est coordonnateur des services de santé communautaire du comté de Kisumu.
Nous n'avons pas besoin de chercher des données parce qu'elles sont à portée de main et nous pouvons les utiliser pour faire des projections. Par exemple, nous pouvons dire que l'année prochaine, nous prévoyons tel nombre d'accouchements. Cette année, nous prévoyons de consommer telle quantité de produits. Cette année, c'est notre niveau de morbidité de base. Donc, nous prévoyons que l'année prochaine, nous devrons préparer quelque chose de similaire ou quelque chose de plus ou moins élevé.
Le projet se heurte néanmoins à des difficultés telles que l'absence des réseaux de données fiables dans certaines régions. Pour l'instant, il est conseillé aux agents de santé de rechercher des endroits disposant d'une bonne connexion Internet lorsqu'ils viennent en aide aux personnes dans le besoin.
Le Monde aujourd'hui avec Eric Manirakiza, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Fatouma Alimas Kalala a assuré la réalisation et la mise en onde. Un grand merci à toute l'équipe de rédaction. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24.